Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien d'une heure, et ce soir, avec Pascal Quignard.
Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent,
ça y est, privativement,
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Le verbe français « inventer » provient du verbe latin « invenire ». Inventer, c'est mot à mot « faire venir ». Il s'agit de faire venir au jour, non pas du fond du passé, mais du fond de l'être, des formes non pas originales et singulières, mais originaires et infinies. Les anciens ne disaient pas pour nommer leurs ancêtres mythiques « les anciens », mais les prioresses, les premiers dans l'ordre du temps. C'est un extrait, un moment de ce dixième opus de votre dernier royaume, Pascal Quignard, cette entreprise de lecture-écriture qui vous fait publier depuis 2002 des livres où la pensée s'élabore à la limite du rêve, où il ne s'agit pas de vouloir ou de chercher, en tout cas pas pour moi, mais peut-être de se laisser attraper, fasciner, dériver à son tour, de goûter par capillarité à l'ivresse de votre propre entêtement. Vous écrivez que cet opus est consacré au faux dans l'art. Donc on pense que c'est vrai. Bonsoir Pascal Quignard.
Bonsoir.
Ce dernier opus est titré « L'enfant d'Ingolstadt ». Il est publié aux éditions Grasset. Puis on peut citer quelques titres de ce cycle du dernier royaume. « Les ombres errantes »,« La barque silencieuse »,« Les désarçonnés »,« Vie secrète ». J'aimerais bien que pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce cycle-là, vous en disiez quelques principes.
Le premier principe est né dans une chambre d'hôpital où on ne me laissait pas beaucoup de temps pour devant moi, et où j'hésitais entre faire des formes très brèves, puisque le temps était compté. C'est le contraire qui s'est déclaré en moi, l'envie de faire une forme océanique dans laquelle je mourrais, qui serait, elle, comme vous le dites à l'instant, infinie, illimitée, un peu comme une mer où les vagues reviennent depuis des millénaires et des millénaires, sans, avant même que les que des terres surgissent, que des îles surgissent. Alors à l'intérieur de cette mer illimitée, il y aurait en effet quand même quelques petites îles volcaniques qui seraient les tomes différents qui se suivent, et qui auraient pour seconde règle, donc, second principe, de ne se priver de strictement aucune espèce de genre littéraire. De ne pas avoir besoin de vérité, de ne pas avoir besoin, le mensonge y est admis, la cryptographie la plus complexe, la plus stendhalienne y est admise, les contes, les étymologies. Et en effet, ça n'est pas un lieu de recherche, c'est un lieu où on, peut-être, à force de contraste entre les parties, entre les chapitres, quelque chose de l'inconscient, quelque chose qui ne se cherche pas, mais qui trouve, et quelque chose qui est de l'ordre de l'énigme pourrait surgir.
Je disais tout à l'heure que c'était un extrait, ce que j'ai lu en introduction, et puis j'ai corrigé en disant que c'était peut-être un moment, parce que je ne sais pas exactement comment dire ces moments donc de textes qui sont courts dans cette immensité océanique, Pascal Quignard, et qui sont séparés par des petites étoiles, des astérix. Vous les appelez comment, vous, ces moments de texte ?
Fragments, c'est bien. Fragments, c'est bien. Quelque chose se déchire et ça me permet surtout, comment dire, d'obtenir de l'attaque. Quand vous fragmentez, quand vous coupez, j'ai beaucoup, beaucoup plus de plaisir à couper qu'à écrire. Je suis incapable de prolonger quelque chose que j'ai écrit. Mais couper, un peu comme des... Peut-être, comme on voit au paléolithique, ces énormes champs de pierre constellés de petits coups. Y a-t-il quelque chose d'un peu... d'une attaque comme ça qui vient, comme une sorte de pluie de fragments.
Je disais, moi, que j'y cherche rien, que je lis, donc peut-être parfois je trouve, et que peut-être je trouve justement parce que des choses sont mises côte à côte, quoi, qu'il y a quelque chose qui est séparé. Cette histoire de séparation, ça revient souvent dans ce texte-là, l'enfant d'Ingolstadt, mais ça revient de manière générale dans cette grande entreprise qu'est le dernier royaume, notamment dans la séparation sexuelle, mais ici dans la séparation entre le vrai et le faux. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la séparation entre ces fragments qui nous permettrait de penser les choses.
La première différence, là, faut rester dans du Freud dur, la première différence, la différence sexuelle, est ce qui a amené le langage. C'est, comment dire, le fait d'être confronté à un fragment autre de soi, tellement autre qu'on ne peut pas, comment dire, l'envisager que dans une sorte de d'épiphanie périlleuse et très vite désirante ou aversive. Mais c'est le fond du langage. Mais je ne pense pas du tout, en revanche, que le vrai et le faux soient séparés, parce que je crois que le vrai est extrêmement secondaire, à supposer qu'il existe. Je pense que le faux, le fonctionnement, comment dire, hallucinatoire de notre esprit et désirant notre esprit fait que nous ne sommes pas des morceaux de réel, mais nous sommes des morceaux de désir, nous sommes des morceaux d'irréel, et que le fond de... D'ailleurs, le mot mince, en latin, mentiri, c'est la même chose, le fonctionnement de l'esprit, c'est mentir.
Je disais que vous avez écrit quelque part, ou en tout cas qu'il est écrit que cet opus-là était consacré au faux. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous commencez à dire qu'il y aura un prochain livre, qu'il y aura un nouvel opus de ce dernier royaume, vous êtes obligé de lui trouver un thème, ou que c'est quelque chose qui se dessine par vos lectures et par l'écriture progressive du livre ?
Tout se dessine par l'écriture progressive et par les coupes successives que je fais dans la montagne que je creuse, que je fore. Mais il y a un thème qui est souvent le contraire d'un thème, si vous voulez. C'est souvent, dans la liste des 10 commandements du décalogue, le fait de, comment dire, tu ne mentiras pas, qui se dit d'ailleurs, comment dire, tu fuiras le mensonge dans le latin de Saint-Jérôme. C'est le contraire, donc je foncerai dans le mensonge. Il y a une sorte de contre-commandement qui commande chacun des tomes. C'est très vague, c'est très général, mais là, si vous voulez, c'est ce thème si étrange sur une table de librairie, lorsqu'il y a marqué « roman » sur un livre, c'est-à-dire lorsqu'il y a marqué « c'est faux », on se précipite. C'est plongé dans ce mensonge-là.
J'ai passé ma vie à m'amuser à faire de la peinture, alors que les autres travaillent. On me l'a toujours dit. On m'a dit, toi, t'es pas sérieux, tu t'amuses, tu joues aux billes au lieu de travailler.
Il y a une toile devant nous.
Oui. Oui. C'est une toile récente. Je l'ai appelée autoportrait assis sur une chaise.
La bouche est rouge.
Oui.
Ouverte.
Oui.
Et les mains font quoi ?
Je sais pas. Les mains, c'est quelque chose de très important pour moi, enfin dans la peinture, comme ça, parce que je trouve que ça a un sens très fort, les mains. Et si on fait faire au doigt un geste qui n'est pas exactement ce que je veux, la peinture, ça tient pas. Il faut que la signification du geste des mains soit parfaitement intégrée dans la peinture.
Elle prie ?
Comme vous voulez.
Elle supplie.
Comme vous voulez.
L'ombre est énorme.
Oui. Je trouve que ça fait très bien, ça, des très grandes sombres, disproportionnées.
C'est un personnage qui regarde avec beaucoup de hauteur.
Qu'est-ce que vous appelez hauteur ?
Il toise.
Je cherche à ce qu'il regarde qui fixe les yeux, qui regarde les yeux. C'est important. Et pourquoi ? Toujours la même. Pourquoi ? C'est un titre très bien pour une peinture, voilà, pourquoi ?
Alors, je ne saurais pas du tout vous dire qu'est-ce qui est tiré derrière la voix de Jean Rustin dans cet archive de 1998. Il est au micro de Jean Dève, certainement pour l'émission Peinture Fraîche sur France Culture. Toujours pourquoi, dit-il. Ça fait partie des visages qui apparaissent dans ce texte, L'enfant d'Ingolstadt, Pascal Quignard, et qui est là, alors je vais oser, pourquoi ?
Parce que ce peintre que j'aimais, c'est toujours très troublant la radio, parce que entendre les voix de ceux qui sont morts, c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'impiété, quelque chose qui gêne. Mais c'est émouvant, je suis ému de l'entendre. Le pourquoi, vous l'avez presque dans le fait de notre amitié, qui était une amitié, il était peintre, il était à l'époque totalement méconnu, interdite de monstration, puisque la seule toile qu'avait achetée l'État français, il y avait un paravent, le conservateur avait mis un paravent devant, tellement il semblait choquant. Il cherchait d'ailleurs comment dire, à blesser l'œil plutôt qu'à apaiser l'œil. Et c'est par la musique que nous nous rencontrions. Donc, un peintre, un écrivain, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des duos, violon, violoncelle, dans un atelier rue Lénine. Et ils allaient boire ensuite, en cachette, au fin fond d'un petit restaurant turc, où il était mal vu aussi de prendre de l'alcool.
En passant par le Franprix de Bagnolet.
Exactement.
Sa présence, vous dites, elle n'a de justification à donner que par l'amitié qui vous liait à cet homme-là, mais aussi peut-être là, on vous entend, Pascal Quignard, parce qu'elle avait à voir cette amitié avec le secret dans la manière dont vous décrivez. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous unissait dans les interstices de vos vies, de vos temps, à l'abri des regards, presque à l'abri du social, quoi.
À l'abri du social et à l'aide d'un instrument qui est complètement perdu, dont je ne suis pas nostalgique du tout, mais qui était le fax. J'entendais se dérouler un fax dans la nuit, et c'était des lettres, comment dire, râleuses, de gens qui voulaient que je vienne avec le violoncelle le lendemain. Mais ce bruit du fax a disparu, et d'ailleurs, tout le courrier que j'ai pu avoir avec Jean Rustin est dans un état, comment dire, la limite de... C'est même plus qu'émietté, c'est jauni, c'est disparaissant. Et ça va disparaître dans les 15 jours, sans doute, c'est pas. Il y a autre chose, si vous voulez. Il y a autre chose, quand même, dans l'admiration aussi que je porte à cette œuvre et à cet homme. Il faisait de l'art abstrait dans les années 40, 50. Il gagnait assez bien sa vie. Il avait été à l'origine porcelainier. Il faisait des peintures sur faïence. Et l'art abstrait, était, comme il le dit lui-même, c'était très décoratif, ce que je fais. Ça plaisait beaucoup. Et puis, il a pris la décision. Son argument, c'était, on ne peut pas censurer avec une œuvre abstraite. Moi, je veux qu'on puisse me censurer. Je veux blesser quelque chose dans le regard de celui qui me regarde. Je veux aller au fond de l'œil. Et s'est lancé dans une œuvre qui a été, en effet, maudite, et qui ne s'est pas achetée. Il n'a plus gagné d'argent. Sa femme, que j'aimais beaucoup, Elsa Rustin, lui disait, allez, va faire tes cochonneries. Et il a passé sa vie à faire ces cochonneries, mais qui n'étaient pas du tout des cochonneries. C'est une œuvre à la limite, c'est une œuvre de chambre, une œuvre où les nudités, sortent comme ça, un peu éberluées dans la pénombre d'une chambre, nues mais flaccides, tristes. Enfin, comme il avait travaillé aussi, à Sainte-Anne, où il avait fait une très grande fresque, mais qui a disparu depuis. Vous voyez, c'est cette énergie, quitte à n'être reconnu par personne, de s'immerger dans ce qu'il faut.
Et quitte à ne pas être montré, ou à ceux qu'on choisit, celles et ceux qu'on choisit, quand vous dites les fax, ils vous étaient aussi envoyés, comme une sorte de convocation.
Oui.
Pas uniquement pour venir boire du vin rouge et jouer de la musique, mais pour venir voir. Et il y a des scènes très belles où presque on vous voit dans l'atelier assis à faire votre travail de regarder, quoi, de regarder par amitié pour Jean Rustin.
Oui, il m'était dans un fauteuil vert, à la dimension, à la hauteur par rapport au chevalet. Tout était très organisé, mais en effet, il était très impérieux, comme vous le laissez entendre, très amical. Vous avez entendu sa voix très modeste, mais les modestes, les humbles, il faut faire très attention, ils sont très impérieux. Et c'était à la fois très délicat, mais je pense que peut-être était-ce quand même le mélange d'amitié, de musique, de vin, de silence, et de ne pas parler de peinture, mais de l'éprouver.
Je dis qu'il apparaît dans les moments, dans les fragments de ce texte-là, peut-être dans un régime d'écriture qui diffère de moments où il me semble que vous nous faites plutôt part d'une lecture, ou alors que vous nous racontez un conte, ou que d'un seul coup il y a quelque chose peut-être de plus théorique qui existe dans le texte que vous écrivez, Pascal Quignard. Est-ce que vous faites de ces présences-là des présences plus vraies? Le fait que ça ait existé, qu'il ait été votre ami, que ces moments aient existé, ou est-ce que finalement un moment de lecture silencieuse de textes anciens est tout aussi vrai que ces moments-là?
Ah non, je ne fais pas de différence, si vous voulez. Moi, ce que je cherche, c'est d'être dense, des épiphanies un peu denses qui se succèdent et qui contrastent les unes avec les autres. Je veux, pardonnez-moi, de reprendre l'image de la mer et que tout surgisse comme une roche éclaboussée d'émotions pour moi, mais aussi bien l'énigme d'une étymologie que le visage de Jean. Tout doit être, comment dire, si j'ose dire, comme originaire, comme sortant de l'origine. Il est possible qu'il y ait quelque chose dans le fonctionnement de l'esprit qui fasse retour, inévitablement, mais plus intéressant que la mémoire qui ne fait retour qu'à du langage, ou par le biais que supporte le langage. Il y a un faire retour, dans ce cas, à quelque chose qui est en amont, qui est de l'ordre de l'image, de l'émotion, de la musique, de la peinture, de tous les arts. Et tous les arts sont peut-être indistincts dans cet air irréel que creuse ce jeu dont il parle, dont parlaient Jean tout à l'heure à l'instant.
J-E-U.
Oui, c'est ça, quelque chose qui joue au sens d'une porte qui déboîte. Il y a peut-être un passage quand même à l'autre monde, au monde d'avant, grâce à l'art.
Est-ce que c'est pour ça que souvent vous fouillez les mots? Justement, vous parlez de l'énigme, de l'étymologie. Je faisais en introduction mention de celle du mot « inventer ». C'est pour trouver cette porte-là, ce jeu-là, où quelque chose s'ouvre?
C'est pour que quelque chose regagne, rétrograde et aille amont de la forme elle-même. Ce qu'est l'archéologie, la redécouverte des grès paléolithiques, par exemple, il y a dans le langage courant, ce qu'on emploie, une possibilité étymologique qui n'est qu'une recherche du sauvage, de la même façon. C'est retrouver quelque chose, l'émergence sauvage de ce que signifiaient les mots à l'origine. C'est peu de choses, et ça les rend trouble. Je pense que non seulement la littérature quitte l'oralité, mais elle doit quitter aussi la signification simple et quelque chose de plus rudimentaire, de plus originaire, de plus sauvage, de plus inconscient aussi peut renaître.
Vous le faites depuis combien de temps, ça?
Depuis toujours, parce que j'ai été modélisé par ça. Lorsque j'étais repris par mes grands-parents à ma famille, lorsque j'étais tout petit, je ne parlais plus et je ne mangeais plus. Mon grand-père était un grammairien, qui d'ailleurs a fait pendant des années à France Culture une émission qui s'appelait Parlons Français. Il était un grammairien extrêmement sourcilleux qui passait son temps, sa vie à table, à se lever pour aller chercher dans le dictionnaire l'origine du mot que l'on employait. Et j'ai donc été accoutumé à ce qu'aucun mot n'a de sens par soi, à ce qu'il ne faut pas croire au langage, et qu'il y a quelque chose avant qui appelle et qui est bien plus intéressant que le langage.
Ça veut dire que c'est moins fixe? Vous disiez que ce n'est pas tant par souci de précision qu'au contraire par souci de troubler les mots qu'on emploie et la certitude du langage.
Et même les mots, dans ce cas-là, sont fragmentés et sont déchirés et portés par une différence qui les rend. La falsification du langage devient plus émouvante dès l'instant où on voit qu'elle tient à peu de choses, à quelques petits signes qui se renvoient. Le signe, le mouvement de l'adieu dans le langage est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important que, comment dire, penser que ça signifie quelque chose de précis.
C'est pas du tout porteur d'insécurité pour vous?
Oh, que j'aime l'insécurité, que j'aime l'imprévisibilité, que j'aime le sauvage. Non, c'est un peu comme si, comment dire, les animaux domestiques redevenaient un tout petit peu sauvages sous mes mains.
J'aime le faux. Mais à vrai dire, j'en cherche l'éclair. J'aime surtout cette foudre rapide qu'il reçoit encore et toujours de l'amont du langage. J'aime l'orage qui précède la vie même dans le ciel, qui fracture la matière. J'aime cette musique primaire, bouleversante, étonnante. Comme j'aime tous les chants innumérables des oiseaux, toutes les résurgences des tourbillons stellaires dans les flots, dans les ramures, dans les pluies elles-mêmes. Parce que l'orage tremble, parce qu'il se disloque, l'orage pense avant que la nature soit. Le ciel alors prémédite son propre temps et le dispense dans sa nuit, pour ainsi dire neuve, dense, immédiate et gravide. La fulguration court-circuite le temps et illumine l'étendue céleste qui l'épanche. Kéronos est le déchirement du monde. Éclat de lumière qui est autant de fragments d'une contemplation imprévisible pour aucun regard, avant toute animalité. Météore qui fusait dans la nuit entre les planètes qui errent et les galaxies qui explosent et les étoiles qui brûlent. J'aime l'éclair, soudain, parce que j'aime l'éclaircie. J'ai toujours coïncidé follement au mouvement des orages et attendu l'étrange éclaircissement à leur terme. Où le ciel bouleversant, nu, bleu, pur, apparaît soudain au milieu de la nuée comme la douce peau lisse de l'invisible lui-même. Beauté imprévisible et désirable telle la proie, pour l'affamé qui l'aperçoit, au loin, dans le champ visuel qu'elle dérange et modifie et enchante. Tel l'homicide pour le vengeur. On reste toujours dans la chasse qui dura 90 millénaires. On reste toujours dans cette polarisation entre des pôles qui sont vivants, entre des sexes qui s'opposent, entre des charges qui se tendent ou qui se font plus denses. Les contacts foudroient.
Il me paraissait évident, Pascal Quignard, qu'on allait trouver le plus bel enregistrement d'orage qu'on avait sous la main. C'est Lise Marie, grâce à un ingénieur du son qui s'appelle Michel Kreis, qui nous permet d'entendre ces orages qui sont mêlés dans cette émission. C'était sûr qu'il fallait que ce soit là. Et en l'écoutant, ça me rend tellement joyeuse que je suis ravie qu'on l'ait fait.
C'est merveilleux.
C'est beau, non?
Ah oui.
C'est tellement beau. Ça rend sautillant, moi, je trouve, d'écouter ces orages enregistrés par Michel Kreis.
Il y a en plus, et c'était merveilleusement lu par
Romain de Bec-de-Lièvre,
il y a quelque chose à chaque fois que j'éprouve, c'est, ça m'émeut, avant la vie donc, qu'il y ait eu comme ça ces sons, ces craquements pour aucune oreille, et ces éclairs pour aucune vision. Ça ajoute même à une sorte de gratuité énorme avant la vie.
Tout à l'heure, j'ai dit en introduction qu'il fallait vous croire si vous disiez que c'était un opus consacré au faux. Et en effet, cet extrait que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre commence par ça, commence par dire « j'aime le faux ». Et puis moi, j'ai trouvé aussi plein de petits sentiers où je me suis dit « mais peut-être c'est aussi un livre qui parle de l'orage, c'est aussi un livre qui parle de l'éclair, qui parle de la fascination, qui parle peut-être de la manière dont on est saisi par ce moment-là gratuit offert par la nature ». Et je me suis demandé en quoi est-ce que l'orage renseignait le faux, renseignait cette espèce de polarité thématique qui n'en est pas une et qui vous a mis en mouvement pour ce livre-là, Pascal Quignard.
C'est curieux que la première définition de la philosophie ait été l'étonnement, qui est le bruit de l'orage lui-même. Il y a chez les enfants, enfin moi en tout cas, mais je pense tous les enfants, le fait de calculer entre le moment de l'éclair et le moment de la résonance orageuse, quelque chose qui les passionne. Et on compte sur ses doigts, et on divise par deux, et on dit ça fait tant de kilomètres. Mais il y a là une sorte d'exercice de l'esprit très 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 ancien, et aussitôt passionné. Il n'y a pas de... D'autre part, il y a quelque chose qui va apporter quelque chose comme le grondement de la mer, le rouleau de la mer. Et je pense que ces deux motions, cette atmosphère orageuse, ce mélange d'angoisse et de joie, d'excitation et d'angoisse quand même, parce qu'il y a quelque chose toujours qui fait peur quand même, bien sûr, lorsque les tsunamis ou les typhons abordent, ça n'est pas toujours autant de bonheur que nous lorsque nous entendons et que nous nous précipitons dehors pour nous laisser tremper par l'orage. Mais c'est ce roulement-là qui va et qui revient, qui est ce double mouvement de la vague, et qui est sans doute profondément l'image de l'inconscient.
Et ça veut dire que l'observation ou l'écoute de ce qu'on appelle la nature vous renseigne, je trouve pas d'autre mot là, autant que la lecture de textes anciens, autant que le regard de la peinture, c'est quelque chose qui vient nourrir au même titre, Pascal Quignard, votre pensée.
Ah oui, là, vous avez raison, je ne peux pas faire de différence. De même, je n'ai jamais réussi à faire de différence entre les genres littéraires. Je suis incapable de faire des différences. Même chose, on peut quand même, entre les sens, entre ce que l'on renifle, entre la fleur, ce que l'on sent, et sa vision, et son toucher, faire des différences. Mais très vite, il y a en moi une sorte de transmodalité, pardonnez-moi le mot un peu, mais quelque chose qui traduit, une sorte de traduction immédiate. Et qui fait, je ne peux pas séparer les... Je sais, là, il faut que je réfléchisse. Oui, l'orage, c'est stellaire. Ça n'appartient pas à la nature. La nature appartient au vivant. Vous voyez, il faut que je réfléchisse pour faire des stades dans le temps. Mais sans ça, je n'arrive pas.
C'est marrant que vous disiez, je ne fais pas de différence entre les genres. Moi, je fais une grande différence entre votre parole sur les genres. Par exemple, vous êtes venu à ce micro-là pour parler des solidarités mystérieuses qui étaient rangées dans la catégorie des romans. Alors peut-être que c'était une différenciation qui vous avait été imposée, mais vous ne parliez pas de ces textes de la même manière. Vous en parliez avec plus d'économie. La fiction, le faux, le roman. Que lorsque vous parlez du Dernier Royaume.
Ce que vous dites est forcément vrai. Mais j'ai du mal à savoir comment vous répondre. Il y a dans la fiction avouée, je crois pas que ce soit ça. Je crois qu'il y a un genre plus audacieux que Dernier Royaume, où c'est moi et tout, ce que je peux rencontrer, qui est tout, librement.
Dans Dernier Royaume,
tout, librement. Sans... Il y a, dans les romans, quelque chose de difficile, de sexuel, d'incestueux, je ne sais pas comment il faut dire, qui fait qu'on fait parler des femmes et des hommes. Et qu'il y a, pour moi qui ai toujours pensé qu'il y avait une très grande différence sexuelle, il y a quelque chose d'assez prétentieux à me mettre dans la peau de l'autre. Et ce genre complètement adonné au transfert qu'est le roman, I am Heathcliff, pour parler comme Emily Brontë, je suis l'autre et je suis l'autre sexe. C'est possible là, ça ne serait pas possible dans Dernier Royaume. Je bafouille, mais votre question est bonne et ma réponse est insuffisante, tout ce qu'on peut dire.
Il y a une autre figure qui apparaît dans ce texte-là, l'enfant d'Ingolstadt. À moins peut-être que on profite d'être du côté de la fiction avouée, comme vous dites, pour simplement dire deux mots ou plus de ce conte, l'enfant d'Ingolstadt, qui donne son titre, parce que finalement, là aussi, il y a quelque chose, il y a une thématique sexuelle qui est importante, Pascal Quignard. Est-ce que vous nous dites d'où vient ce titre-là?
L'enfant d'Ingolstadt, il y a un conte de Grimm qui s'appelle L'enfant entêté. Et qui remonte à un chant qui a été trouvé à Ingolstadt, qui est donc l'enfant d'Ingolstadt. Un enfant frappe sa mère, meurt. On le couche sous la terre, on l'enterre et on le couche sous la terre. Pouf ! Son bras ressort de terre. On appuie sur le bras, on essaie de le réenfouir. Chaque fois, il se redresse. Alors, on fait appel à la mère. Et la mère vient avec le jonc avec lequel elle battait l'enfant. Elle le frappe au sang jusqu'à qu'il ne soit plus qu'un morceau de bras sanguinolent, l'enfouit sous la terre, et le conte est fini. C'est un conte ahurissant. Moi, plutôt que sexuel immédiatement, il a aussi quelque chose d'une incroyable indocilité. Et il y a, dans la tête, une indocilité, quelque chose qui entête la tête, quelque chose qui est vraiment étrange, qui n'appartient pas du tout à l'humanité, qui appartient à beaucoup d'espèces, et d'oiseaux, et de mammifères, et qui est le rêve. Cet entêtement du rêve, c'est surtout le rêve que j'accentue dans ce magnifique conte. Il y a un rêve plus fort que l'interdiction, plus fort que le langage. Il y a une image plus forte. Et dans ce sens-là, pour parler roman et conte, il y a quelque chose d'antérieur au roman dans le conte. Et quelque chose qui est très proche même du récit de rêve dans le conte. C'est pour ça que j'adore les contes.
Et pourtant, vous parlez d'indocilité, mais quand le bras de l'enfant est sanguinolent et qui finit par...
Se coucher dans la terre.
Vous y voyez encore de l'indocilité. Vous n'avez pas l'impression que l'indocilité de l'enfant a été tuée, réduite.
Non, parce que pour moi, quand même, celle qui est profondément punie, c'est celle qui frappe, c'est la mère. Et là, il a gagné. Elle est mauvaise, cette mère. C'est ma morale à moi. Ça ne vous convainc pas du tout.
Non, ça me laisse songeuse. Il y a une figure qui apparaît dans ce texte, qui est le poète Paul Celan. Donc je vous propose qu'on écoute une lecture d'Annie Seinburger dans une traduction française du poème Fugue de mort.
Lait noir de l'aube, nous le buvons le soir, le buvons à midi et le matin, nous le buvons la nuit, nous buvons et buvons. Nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand il va faire noir en Allemagne. Margaret, tes cheveux d'or, écrit ça, s'avance sur le seuil et les étoiles tressaillent. Il siffle ses grands chiens, il siffle ses juifs et leur fait creuser une tombe dans la terre. Il nous commande, allons jouer pour qu'on danse. Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons le matin, puis à midi, nous te buvons le soir. Nous buvons et buvons. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand il va faire noir en Allemagne. Margaret, tes cheveux d'or. Tes cheveux cendres, sulamite, nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Il crie, enfoncez plus vos bêches dans la terre, vous autres, et vous chantez, jouez. Il attrape le fer à sa ceinture, il le brandit, ses yeux sont bleus. Enfoncez plus les bêches, vous autres, et vous jouez encore pour qu'on danse. Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi et le matin, nous te buvons le soir, nous buvons et buvons. Un homme habite la maison, Margaret, tes cheveux d'or, tes cheveux cendres, sulamite, il joue avec les serpents, il crie jouez plus douce la mort est un maître d'Allemagne, il crie plus sombre les archets et votre fumée montera vers le ciel, alors vous aurez une tombe dans les nuages où l'on n'est pas serré. Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi, la mort est un maître d'Allemagne. Nous te buvons le soir et le matin, nous buvons et buvons, la mort est un maître d'Allemagne, son œil est bleu. Il t'atteint d'une balle de plomb, il ne te rate pas. Un homme habite la maison, Margaret, tes cheveux d'or, il lance ses grands chiens sur nous, il nous offre une tombe dans le ciel. Il joue avec les serpents et rêve, la mort est un maître d'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux sans...
J'entends des échos dans ce poème que j'avais pas entendu avant. Avec tout ce qu'on vient de dire, Pascal Quignard, c'est un poème donc de Paul Celan, lu par Annie Seinburger dans une traduction française qui s'appelle Fugue de mort. Là encore, ça m'apparaît important que dans notre dialogue, il y ait quelque chose de Paul Celan. C'est difficile, voire impossible de trouver sa voix. Alors on a été chercher un poème. Je pense que son apparition est très brève dans L'enfant d'Ingolstadt, mais elle m'a sauté aux yeux. Je ne sais même plus où est-ce qu'il apparaît, parce que vous le savez, vous.
Ce qui me touche pas qui me blesse, mais qui me touche dans le fond, c'est que Jean Rustin ou bien Paul Celan, ce sont des gens que j'ai connus méprisés, qui n'existaient pas. Comment dire, il était répétiteur d'allemand, Rudulm, et méprisé et chahuté, extrêmement chahuté. Il était considéré comme traducteur à l'époque, il n'était pas considéré comme l'immense poète. Si vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est faire revenir aussi la détresse dans laquelle il vivait, et la non-reconnaissance dans laquelle il vivait. C'est une œuvre qui a immensément compté pour moi, ça m'est difficile d'en parler. Mais cette incroyable, puisqu'on publiait dans la même revue, cette incroyable fragmentation des mots et du poème est quelque chose qui m'a, comment dire, subjugué. Il y a deux personnes qui m'ont vraiment, comment dire, marqué littérairement, profondément. C'est Paul Celan et c'est Klossowski, Pierre Klossowski, la traduction de Virgile de Klossowski. Or, c'est Paul Celan qui m'a demandé de traduire Lycophron, que j'ai fait dans une traduction qui voulait imiter le Virgile de Klossowski. Vous voyez comme ça, c'était pris tout ça dans les années 68, 69, 70. Il a écrit sur moi, Paul Celan, C'est très...
C'est marrant que vous mentionniez le fait que vous avez été amis avec ces deux hommes-là et que finalement, le fait qu'on les mentionne là à la radio, c'est aussi une manière de les faire revenir. Parce que en refermant le livre, dans la deuxième lecture, je me suis dit peut-être que c'est un livre sur la mort de l'ami.
Peut-être est-ce un livre sur la mort de l'ami, sur la gratitude qu'on doit aussi avoir par rapport à l'ami, mais c'est aussi, dans ce cas-là, pour prolonger ce que je disais, un livre contre l'arrangement de la mémoire. Laisser les amis, eux aussi, à leur pauvreté, à leur déchirement, à leur folie, parce que malheureusement, ce n'est pas un suicide, comment dire, stoïcien que le suicide de Paul Celan, c'est aussi le suicide de quelqu'un qui a été extraordinairement malheureux des accusations qu'on portait contre lui, et qui, auquel il n'aurait jamais dû prêter la moindre attention. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richaud.
Oh. saigne dans l'œil s'il y a un capot. Et la Seine et la Marne qui se jettent dans la Seine.
Là encore, il y a des échos imprévus avec le poème de Paul Celan, c'est Rivière et fleuve, par une chanteuse qui s'appelle Fantôme, qui se fait appeler Fantôme. Et en fait, on l'a choisie parce qu'il nous semblait qu'elle chantait presque un peu endormie, comme si elle chantait depuis les rêves. Et tout à l'heure, vous avez dit brièvement, Pascal Quignard, combien pour penser le faux et la falsification, le rêve était un endroit ou une matière importante, intéressante. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et préciser votre pensée là-dessus ?
Oh, c'est pas une pensée, c'est un émerveillement devant le fait que, après être sorti, comment dire, du ventre de l'obscurité, du ventre de sa mère, il y ait ces trois enveloppes, si étranges quand on y songe, la nuit, puis le sommeil, puis, à l'intérieur du sommeil, rangé comme un bébé, le rêve lui-même, qui permettent à des oiseaux, à des chats, que l'on passe soudain fusé en l'air, parce qu'ils viennent d'attraper un passereau ou bien un petit écureuil, que nous soyons dédoublés dans quelque chose de faux, qui nous répare, qui nous reconduit au monde d'avant. Je trouve toute cette organisation, chaque soir, chaque nuit, je trouve toute cette organisation de notre corps absolument stupéfiante. Ça n'est pas une pensée, c'est une émotion. Or, c'est comme le mimétisme dans la nature, c'est comme, comment dire, les ailes des papillons auprès des fleurs qui essayent de faire les fleurs. Tout ça est vraiment une énigme très, 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 très... je ne m'en lasse pas.
Qu'est une énigme par laquelle ou à laquelle vous ne répondez jamais par Dieu ?
Non, je crois que c'est beaucoup plus énigmatique que Dieu. C'est même pas une personne, c'est même pas un père, certainement pas. C'est même pas une mère non plus. C'est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, erratique. C'est étrange, même que ce soit c'est des reflets faux comme ça qui nous guident. De plus en plus, n'ayant plus à vivre, soumis à des contrôles sociaux et à un métier, quoi que ce soit, je me fie énormément, je laisse toujours passer une nuit, je me fie énormément aux rêves, comme si c'était comme dans l'Antiquité une mantique. Ça nettoie le cerveau et ça vous dit quel est votre désir. C'est déjà très très bien.
Oui, si tant est qu'on soit en mesure de l'écouter.
Je sais bien qu'il y a même des gens qui arrivent à ne pas se souvenir de leurs rêves. Mais quel travail, quel boulot.
Les hommes, comme les phoques ou les tortues, où les requins remontent à l'occasion respirer à la surface de l'océan ou du langage. Ils y expirent, dans leur pauvre voix, les choses carbonisées. Puis ils replongent. Le langage est le faux. Il est plus utile aux assassins survivants, aux hommes infidèles, aux chasseurs qui posent des pièges sous les pattes des bêtes détrônées, aux ordres des dieux qui découpent le monde afin de distribuer les parties décomposées de toutes les victimes qu'ils exigent, aux mensonges du narrateur qui, à force de parler, s'impose au fond du corps comme si ce profond habitant du corps pouvait être lui-même. Cette subjectivité est fallacieuse. C'est un fantôme linguistique. Ce ridicule héros est indispensable à la société, comme il est inhérent au mythe. Celui qui prend la parole croit qu'il est le maître absolu des codes auxquels il vient alors se soumettre, comme s'il les édictait lui-même. Ce qui est vivant, à mille lieues de là, ne parle pas, mais bondit, s'entr'ouvre, plane, plonge.
Pascal Quignard, c'est un nouvel extrait de votre livre, L'enfant d'Ingolstadt, où on avance encore dans le faux, cette fois-ci du côté, ou peut-être une nouvelle fois du côté du langage. Vous écrivez, ni plus ni moins, le langage est le faux. Et celui qui l'utilise, croyant utiliser le vrai, ne fait qu'utiliser le faux. Alors comment vous vous débrouillez pour parler encore ?
C'est une contradiction que je ne m'explique pas non plus très bien moi-même. Sinon qu'il est sans cesse ce faux à défalsifier. Une fois qu'on l'a acquis, on ne peut pas s'en défaire. Et pourtant, il y a beaucoup d'ascèses qui permettent de se libérer de lui. Dans le désir, dans la musique, dans la contemplation, qui est quelque chose qui me gagne de plus en plus. Marcher en forêt, il faut pas parler. Longer la mer, faut pas parler, de toute façon on peut pas. C'est trop bruyant. Et il est possible peut-être que on ne peut pas démonter le langage que nous avons acquis péniblement, mais qu'on peut le déjouer, le... C'est une lutte, mais c'est ça la littérature peut-être. C'est faire qu'il n'y ait plus de destinataire. C'est faire qu'il n'y ait plus de dialogue. C'est faire que les mots se scindent eux-mêmes, se fragmentent eux-mêmes.
De dialogue, c'est-à-dire d'adresser en tant qu'auteur quelque chose à un lecteur ou d'écrire même des dialogues?
Ah non, on peut écrire tous les dialogues qu'on veut.
D'accord.
Ouais. In quid, in quam, c'est ça. Même c'est ça que la définition du roman, selon Cicéron, c'est pouvoir dire, dit-il et dis-je. Mmh. Mais ça, on reste encore plus enfermé dans un silence interne. Non, c'est le fait que ce qu'impose le dialogue, c'est une définition magnifique de la littérature qui n'est pas mienne, qui est celle d'Émile Benveniste. On n'a plus le jeu qui parle, on n'a plus le tu qui écoute et qui relance la parole, et il n'y a plus de dialogue. C'est du langage désadressé. C'était peut-être pas fait pour ça d'ailleurs le langage, mais c'est une ascèse du langage qui est la littérature même. On confie au silence quelque chose qui servait à parler.
Dans le passage que vient de lire Romain de Bec de Lièvre, vous faites du langage l'endroit où vraiment ce n'est pas du tout vivant. Que le vivant est bien plus loin, sous d'autres formes. En tout cas, pas du tout dans les mots qu'on emploie. Ça veut dire que c'est fichu. Ça veut dire que le langage ne peut pas l'être à aucun moment.
Dans le langage, dans ce
parler,
texte,
je veux dire.
Oui, moi je pense, et ce qui est dit dans ce qui vient d'être lu très bien par notre ami, c'est le fait que la subjectivité elle-même est le leur. Il ne faut surtout pas se prendre pour soi-même. Il faut surtout pas croire que le prénom que nous portons, c'est nous qui nous le sommes attribués, que le saint qui se révèle derrière notre ou que la Vierge Marie sont. Il ne faut pas se croire. Il y a quelque chose en nous de beaucoup plus vague, de beaucoup plus incertain, de beaucoup plus vivant en effet. Mais là, c'est une véritable ascèse, même respiratoire, qu'il faut avoir. Il y a bien des possibilités de s'émanciper un peu des illusions. Mais ceux qui se croient eux-mêmes, ceux qui se croient une personne, une biographie unique, ou je ne sais quoi, tout ça est du délire, c'est du grand délire.
Vous écrivez « Nos vies ne sont pas des biographies ».
Non.
Manière de dire quoi ? Qu'il n'y a pas de vrai dans nos vies ?
Il n'y a pas de destin. Que, comment dire, la succession de ce que nous vivons est toujours remaniable, que lorsque vous tombez amoureuse de quelqu'un, tout le passé se retransforme, et pour peu que vous soyez plusieurs fois amoureuse, vous aurez eu plusieurs biographies, et que vous tissez avec celui que vous aimez aussi, comment dire, une invention, une narration qui elle-même est fausse, mais que cette narration fausse est une pure merveille aussi, une pure merveille d'entente et d'essayer, comment dire, d'amener à soi ou de tisser à soi un peu comme dans Homère, de pouvoir se raconter une histoire nocturne et diurne. Non, il faut surtout pas après croire, ah, mais je suis ceci ou je suis cela.
On lit plusieurs fois sous votre plume que vous l'aimez, le faux, que la falsification est un émerveillement, qu'il s'agisse, quel que soit le lieu où vous le trouvez, ce faux-là. Et quel est votre rapport avec le vrai?
Mais vous ne pensez pas qu'il y ait de vrai. C'est pour ça que quand je cherche à en faire la généalogie, je me suis retrouvé avec ni psychanalyse ni philosophie, mais avec cette opposition que les ethnologues prennent entre le propre et le sale. Bien sûr que l'humanité fait une différence distincte entre le propre et le sale, mais de toute façon, c'est parce que le dégoût lui inflige le sale, mais il n'y a pas de propre. De même, le faux qui est là, qui moment très important dans l'enfance, quand l'enfant peut dire autre chose que la vérité. Et là, il commence un petit peu à déboîter et à être lui-même. Quand il peut commencer à mentir, ce qu'il a fait à l'école, mentir sur le menu qu'il a mangé à midi, mentir sur qui il aime surtout, quand il est tout petit. Mais ce déboîtage-là se fait, mais on peut défalsifier le faux, mais on ne peut pas imposer du vrai qui n'existe nulle part, qui est une illusion.
Est-ce que c'est une des choses qui vous a fait complètement quitter, je ne sais pas si vous avez jamais été dans ce sillon-là, mais la philosophie?
Oui, j'ai quitté parce que j'ai été initié, j'ai fait les études pour, j'ai eu même d'ailleurs, comment dire, Emmanuel Lévinas me convoquant chez lui, rue Michel-Ange, pour me dire qu'il fallait que je continue à faire de la philosophie, il fallait pas que j'abandonne la philosophie. Non, c'est une tradition que j'admire, c'est une tradition que je ne pratique pas.
Et ça a à voir avec le fait que pour vous, le vrai n'existe pas?
Ça a à voir avec l'énigme. Je ne pense pas qu'on puisse épuiser l'énigme, sortir de l'énigme pour dire « voici la théorie ». Je pense qu'il faut rester dedans et l'éprouver le plus profondément possible. Et être le plus vivant possible plutôt qu'être une construction magnifique. Mais comprenez-moi, j'ai aucun mépris. J'admire cette tradition. J'admire cette tradition philosophique. Mais pour moi-même, oui, j'ai quitté. L'initié a dit « ce Dieu n'est pas pour moi ».
Et on va en terminer avec d'autres images, ceux des peintures du Fayoum.
On les appelle Fayoum, mais ils sont étendus dans toute l'Égypte. Les premiers ont été découverts à Fayoum. Le climat de l'Égypte a permis de conserver ces portraits, qui sont d'époque romaine, principalement des trois premiers siècles de notre ère, donc des trois premiers siècles dont on ne sait rien dans l'ère chrétienne, dans les deux premiers siècles du moins. C'est des portraits funéraires, ce ne sont pas des portraits de chrétiens, c'est des masques de mort, mais on a très peu de vieux. Très rarement, c'était des portraits dans le sens strict du terme. Et puis, l'analyse de ces peintures a conduit à une conclusion étonnante, c'est qu'on peignait ces visages à une certaine époque de l'âge du défunt, bon, qui était encore en vie, et qu'on l'achevait après sa mort. D'une manière très libre, entre guillemets, c'est-à-dire qui se libère de cette individualisation du visage. Donc on part d'un visage individuel, jeune, et on le stylise dans le sens de l'ouvrir sur un visage dans l'éternité. Post-mortem, on est au-delà de la mort et non pas avant la mort. C'est des visages d'éternité, sûrement, tout en n'étant pas des visages chrétiens.
C'est la voix de Mahmoud Zibaoui dans une émission Surpris par la nuit diffusée sur France Culture en 2002. Vous voyez, Pascal Quignard, j'aurais pu tirer plein de fils à partir de l'enfant d'Ingolstadt et j'ai fait des choix. D'une part parce qu'on a une heure et d'autre part parce que comme ça nous permet de discuter. Donc il y a eu Jean Rustin, il y a eu Le son de l'orage, il y a eu Paul Celan, il y a eu Les rivières et les fleuves et le rêve, il y a eu des extraits de votre propre texte. Et puis voilà, je décide de terminer par le Fayoum, mais peut-être... On aurait pu prendre 1000 chemins différents. Cependant, pourquoi ces images-là ont une importance dans presque dans l'énergie de votre texte, de votre livre, L'enfant d'Ingolstadt?
Par le mode qu'elle suppose. Parce que le visage lui-même, ça n'est pas dit là, est peint à l'huile et à la cire, et il est ensuite chauffé, afin qu'il conserve une espèce de puissance fantasmatique, de luisance du désir. Tandis que les vêtements, ce qui l'entoure, est peint à l'eau. Et ça ternit l'arrière-fond de... C'est la technique picturale qui me paraît absolument bouleversante. Et cette propriété que les Romains ont eue Moi, je rapprocherais plutôt, d'ailleurs, cette technique-là de l'empreinte de cire du visage qui donne ce réalisme à la statuaire romaine. C'est tellement étrange par rapport à l'extrême beauté idéalisante de l'Égypte et de la Grèce que je suis extrêmement touché par le caractère créaturel, pauvre, triste, mais avec cette luisance du fantasme uniquement sur les yeux et les traits du visage.
Ce qui finit presque nous permet de faire une boucle, parce que on n'est pas si loin de ce que vous disiez tout à l'heure des corps et des visages peints par Jean Rustin.
Oui. Les visages peints par Jean Rustin, en plus, dans le temps, il y a Amsterdam, la fiancée juive. Et derrière la fiancée juive, il y a un petit visage tout triste qui apparaît. C'est le premier Jean Rustin.
Merci beaucoup Pascal Quignard. L'enfant d'Ingolstadt, c'est le titre de ce 10e opus du Dernier Royaume. Il en aura probablement plein encore.
Je mourrai dedans.
C'est publié chez Grasset. Au son ce soir, c'était Catherine Déretté, Lise-Marie Barré à la réalisation. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et absolument quand vous voulez sur franceculture.fr. Vous pouvez réécouter cette émission, mais aussi toutes celles qui l'ont précédée. Vous pouvez trouver la liste des musiques diffusées, quelques références d'archives, un endroit pour nous écrire et aussi un endroit pour vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Je remercie Romain de Bec de Lièvre, Lou Quevauvillier, Jeanne Aléos, Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission, et je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.